font comme bon sang et avoir le droit de rêver. Je suis venu vivre à Montréal, me promener dans ces quartiers. Je suis venu vivre à Montréal, chanter, danser et m'amuser. C'est bon, vivre à Montréal, aller marcher sur les pavés. Vieux Montréal, boulevard Saint-Laurent, parc La Fontaine, rue Saint-Denis. Qu'il fait bon, vivre à Montréal, voyager sans s'éloigner. Le petit Maghreb, la petite Italie, quartier latin et Chinatown. Vivre à Montréal, rencontrer des nationalités. C'est agréable, vivre à Montréal, partager notre identité. C'est agréable, vivre à Montréal, le cœur heureux, la tête en paix. C'est agréable, vivre à Montréal, et s'exprimer sans s'inquiéter. Je suis venu vivre à Montréal pour retrouver la liberté. Vivre à fond comme bon me semble et avoir le droit de rêver. Je suis venu vivre à Montréal, me promener dans ses quartiers. Je suis venu vivre à Montréal, chanter, danser et m'amuser.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec vous à l'animation, donc Karim et Lamine. Bonsoir Karim.
Bonsoir Lamine, bonsoir amis auditrices et auditeurs.
Donc l'émission va rester avec vous comme d'habitude à vous accompagner dans cette très belle soirée, puisque aujourd'hui on peut dire qu'on a un petit peu senti les couleurs de l'été. On a eu un mois d'avril un petit peu, je dirais, un hiver nord-africain, si on peut dire, puisqu'il a plu presque tout le long du mois d'avril. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'hiver est derrière nous. On va espérer que ça va continuer. On va vous accompagner jusqu'à minuit. Comme d'habitude, on vous habitue à Taxi Maghreb d'avoir une émission en deux parties. La première partie, donc la première demi-heure, ça va être avec le festival. Les festivals nous rappellent aussi l'été. Et nous allons recevoir Monsieur Jean-Marc Gravatel, qui est directeur artistique du Festival de musique du monde à Montréal. Et aussi l'artiste Karim Saada, qui va participer cette année au festival. Bien sûr, ça serait la première partie de l'émission. La deuxième partie, nous allons recevoir le docteur M. Ahmed Ben Saada pour nous parler de son dernier livre qui vient de sortir la semaine courante, donc le 27 avril, Arabesque américaine, le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe. Ça sera de 23h jusqu'à minuit. Karim, donc on va commencer notre première partie pour présenter ce festival qui est, on peut dire, ancré dans, à Montréal, dans le, cette mosaïque culturelle, puisque le festival fête cette année, je pense, la 21e donc, édition. On va commencer avec nos invités. Donc bienvenue, M. Jean-Marc Ravatel et aussi Karim Saada. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Donc, on va commencer peut-être avec la présentation du festival. On sait que Montréal est quand même doté de beaucoup de festivals et c'est un petit peu difficile des fois à des nouveaux arrivants ou même à des arrivants des communautés culturelles d'aller voir, de découvrir l'ensemble des festivals. Un des objectifs aussi de cette première partie d'émission, c'est de faire découvrir un festival, en fin de compte, qui nous concerne en premier lieu, puisque c'est un festival qui représente une fenêtre de cette mosaïque culturelle montréalaise. Monsieur Ratel, si possible, nous présenter le festival.
Ben oui, en fait, c'est un festival qui existe depuis maintenant 21 ans. Un festival qui est toujours resté un peu discret, puisqu'il est... en fait, à l'origine, ce festival était un showcase. C'était la fondatrice du festival avait constaté qu'il y avait beaucoup de très bons artistes de musique du monde qui vivent à Montréal, souvent qui se retrouvaient chauffeurs de taxi ici, alors que dans leur pays, c'était des tops en musique. Et au début, ça a été un showcase. Ça a tellement bien marché que ça en est devenu un festival. Et par la force des choses, les artistes qu'on invitait à ce festival, on se rendait compte qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Donc, MMM, c'est le festival, mais c'est aussi une agence d'artistes. C'est parce que c'est une globalité. C'est l'idée, c'est de faire connaître les musiques du monde aux Québécois et aux Montréalais. Et en même temps aussi de rendre cette musique plus présente dans les scènes. Parce que bon, souvent, ces gens-là, bon, Montréal est une ville multiethnique. Donc, à Montréal, c'est pas vraiment un problème de faire connaître ces artistes-là. Mais quand tu sors et que tu vas à Chicoutimi, c'est toute une autre paire de manches. Ce festival existe depuis 21 ans. La particularité qu'il a, c'est qu'il ne se concentre pas sur un style musical. Bon, on connaît le festival Nuit d'Afrique, on connaît le festival du monde arabe, qui sont, bon, Nuit d'Afrique, on s'entend, c'est musique afro-caribéenne. Alors que nous on touche vraiment à tous les styles musicaux, comme à soir, Karim d'ailleurs était là, on a présenté un show indien de deux musiques pure indiennes, de trois musiciens qui venaient directement de l'Inde. Donc nous on touche absolument à tous les styles musicaux. Ça peut être aussi bien de la musique qu'on dit entre guillemets savante, ou de la musique classique par exemple iranienne ou indienne, et à la fois des choses complètement contemporaines où il y a de la fusion, du mélange. On peut très bien dans le même festival présenter de la musique d'origine tzigane, musique arabe, andalouse, italienne. Vraiment, on essaye en fait à chaque édition du festival de présenter une grande palette, que les gens viennent là. En fait, c'est vraiment un festival de découverte. D'abord parce que on présente des musiques souvent que les gens connaissent pas ou peu, et on présente aussi des artistes que les gens ne connaissent pas ou peu. Donc, on a toujours eu un aspect de découvrir des artistes, de les mettre sur la map. Alors, comme on a quand même une machine promotionnelle et qu'on est un festival qui existe depuis 21 ans, on a quand même des fidèles qui nous suivent. C'est aussi un festival que je fais pour les musiciens. L'idée d'un festival, c'est pour le public, mais ce qui est important dans un festival, c'est que ça soit un lieu de rencontre, ou que autour d'un festival, des musiciens se rencontrent, se parlent, et souvent ça donne des projets par la suite où ces gens-là, en se rencontrant, disent « Ah oui, j'ai écouté ce que tu as fait sur scène, ça m'a plu, peut-être qu'on pourrait collaborer. » Donc, souvent, dans les gens, on voit, dans le côté festival, on voit le show et le public. Moi, qui travaille dans la musique depuis très longtemps, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Ce qui est important, c'est les rencontres. Donc, quand c'est un festival comme l'autre qui est assez intime, c'est pas des grosses scènes, il fait que les musiciens se croisent à travers tout ça, se parlent, se rencontrent et font des collaborations futures. On aime beaucoup aussi les créations. Comme hier, c'était une création. Il y avait un musicien chinois, une chinoise, quelqu'un de Vancouver, un musicien vietnamien qui se mélange avec un musicien haïtien péruvien, un nouveau-zélandais, un mexicain et tout ça. Donc, on a toujours aimé cet aspect-là de rencontre, de création, de clash carrément multiethnique.
Bien sûr, pour avoir plus d'informations, donc on peut mentionner le site du festival qui est www.musicmmm, donc trois lettres oui, en un seul mot, .com. Le programme cette année, le festival s'étale du 27 avril, donc il a commencé au courant de la semaine jusqu'au 7 mai.
Oui, au 7 mai. Et puis d'ailleurs, Karim Sada va faire une très belle soirée avec où on a décidé de faire. C'est parce que vous savez, quand on est directeur artistique, on reçoit beaucoup de dossiers. Puis bon, moi ça fait longtemps que je travaille dans le milieu. Des fois, on sent des choses qui sont non dites, mais on sent qu'il y a des affinités entre des musiciens. Eux le savent peut-être pas forcément, mais nous, en tant que directeur artistique, à force d'en écouter, on sait que un tel, je suis sûr que ça va marcher avec un tel. Et c'est l'idée qu'on a eue avec Serge Bedrossian, qui est un artiste arménien implanté à Montréal depuis longtemps. Et quand j'ai écouté Serge et que j'ai écouté Karim, j'ai dit ces deux-là, faut vraiment les mettre ensemble, parce que je sentais que ça. Il y a juste avant, il y a une soirée pareille avec Athésia, qui est une chanteuse qui vient d'Haïti, qui fait de la bossa lounge, et une autre chanteuse qui est elle québécoise, qui fait du folklore très peu connu de la Scandinavie, de la Finlande. Et ces deux filles-là, même si leur musique est complètement différente, il y a des liens, on sent des choses entre ces deux filles-là. Et c'est un peu aussi ça le but d'un festival, c'est créer ces rencontres-là.
Merci monsieur Jean-Jacques.
Jean-Marc,
on sait que vous avez dit que ce spectacle, il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce spectacle. Vous avez dit que c'est un spectacle un peu discret, il se fait discret. Vous pensez pas que faire sortir ce spectacle dehors, genre l'organiser dans une place où est-ce qu'il y aura une grande scène et puis il y aura des kiosques aussi pour la publicité et tout, ça va donner encore plus de publicité pour le festival et pour bien sûr les kiosques, ça va être des kiosques qui vont être loués et tout, donc ça va ramener des gens puis des personnes pour
Moi avant toute chose je me concentre sur la musique. Moi la première chose que je veux c'est que les conditions soient belles pour les artistes, tout ça après bon au-delà de ça le festival de musique multimorale fait des activités en dehors du festival. Par exemple quand tu parles de choses en plein air, justement sur la Plaza Saint-Hubert cet été on fait une journée dédiée à MMM où on présente trois groupes en plein air, il y a au moins 50 000 personnes, donc le festival c'est vraiment la cerise sur le sundae où là, on veut présenter des choses dans des conditions. Trop souvent, les gens jouent dans des mauvaises conditions, on s'entend. Nous, moi, la première chose que je veux, c'est quand mes artistes y viennent, ils aient des conditions impeccables, c'est-à-dire un éclairage superbe, des sonorisateurs superbes, qui puissent s'exprimer vraiment au meilleur d'eux-mêmes. Parce que souvent, excuse-moi, mais dans les festivals en plein air, des fois, t'arrives là, t'as pas le temps de faire ton soundcheck, t'es le gars le moins connu. Alors,
on appelle ça le line check.
Line check. Et donc, nous, on se dit au moins, quand on avait des artistes dans notre festival, ils ont le confort de pouvoir présenter leur matériel dans les meilleures conditions. Il est certain qu'à côté de ça, on a d'autres activités qu'on fait en plein air. On essaye de s'associer, évidemment. Puis bon, moi, j'ai un travail à l'année aussi où je place mes artistes dans des festivals connus comme à Chicoutimi. Et je pense que le grand défi maintenant en musique du monde à Montréal, Montréal est une ville fantastique. Je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'à Montréal, on a la crème de la crème de la crème des musiciens. Montréal est une ville multiethnique. Il y a des tas de très bons musiciens dans tous les styles ici. Par contre, l'idée, c'est d'arriver à amener ça en dehors de Montréal. Et ça, c'est plus difficile. Et ça, c'est un travail de tous les jours au téléphone pour convaincre des diffuseurs en région de leur dire, écoute, tu vois, ça, c'est bon, il faut que tu l'amènes chez toi. Et je dirais que tranquillement, pas vite, c'est en train de se faire. Je pense que le Montréal s'est ouverte à la musique du monde depuis déjà longtemps. Mais en région, c'est en train de se faire. Il y a certains diffuseurs qui comprennent ça et qui vont choisir ces choses-là. Donc le travail, il y a encore un énorme travail à faire pour amener cette musique-là en dehors de Montréal.
Donc cette année, un membre de la communauté algérienne maghrébine va être présent, Karim Saada, je rappelle, qui est donc gagnant du Folk Music Award en 2009, en nomination au Juno 2010 avec son premier album La Danse de l'Exilé. Première question, pourquoi Karim Saada en particulier cette année?
C'est parce que je suis mélomane et je trouve que ce que fait Karim, c'est excellent. C'est vraiment excellent. En plus de ça, ce que je trouve génial, c'est que ces albums, tu les écoutes la première fois, tu dis, oh, c'est bon. Puis tu l'écoutes deux fois, tu dis, putain, que c'est bon. Puis au bout de la troisième fois, tu dis, mais c'est vraiment très bon. Puis là, tu vois, dans la salle de spectacle, quand les gens arrivent, on passe une compilation de tous les artistes du festival. Et là, très souvent, quand je tombe sur la tune de Karim, je suis là en train de bouger. Et puis bon, notre boulot, c'est justement de faire connaître ces gens-là qui ont souvent bourré de talent, mais qui sont pas connus par le grand public. Donc, l'avantage à travers un festival, c'est qu'il va faire des radios, les projecteurs pour quelques instants vont se braquer un peu plus sur lui. Puis bon, je pense que Karim a beaucoup de talent et donc moi, je fonctionne au coup de cœur. Alors donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit bon, il faut que Karim soit à mon festival, c'est tout, tout simplement.
Bonsoir donc Karim.
Bonsoir Lamine, merci beaucoup de m'inviter. Écoute Jean-Marc là, il me jette des fleurs, merci Jean-Marc.
Non mais c'est vrai que c'est très bon ce que tu fais, j'invite vraiment tout le monde à venir le voir parce que ça vaut vraiment le coup.
Merci aussi de m'inviter au festival.
Donc Karim, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le vendredi prochain?
Pour le vendredi prochain, le 6 mai Inch'Allah, au Théâtre Plaza. J'invite les gens à venir nombreux parce que ça va être vraiment chaud. Ça va être un spectacle. D'ailleurs, il y a mon ami Serge Bédrossien qui va être là, qui va faire la première partie. Puis Serge, il a une voix grave, vraiment... Il est magnifique. D'ailleurs, il m'a chanté un petit peu dans le téléphone là, parce qu'on est en train de travailler une chanson ensemble. Une chanson algérienne, c'est toujours une surprise. Je dirais pas c'est quoi la chanson.
Il faut venir le 6.
Il faut venir le 6 pour le découvrir. Alors ça va être une chanson, moi et lui, qu'on va partager sur scène. Puis aussi, moi, ce qui me concerne, le spectacle, ça va être La danse de l'exilé, puis Aïch Liom. C'est-à-dire les deux albums vont être présents à cette soirée-là.
On a commencé l'émission avec la chanson Montréal de Aïch Liom. On va revenir un petit peu en arrière. Et tout à l'heure, quand j'écoutais Monsieur donc Jean-Marc qui parlait de la première fois qu'il écoutait la toune et la deuxième fois, en tant qu'animateur avec ce que Karim me fait, en fait, quand la première fois c'est une chanson que je passe, la deuxième fois c'est une chanson, la troisième fois ça va être le générique de l'émission, ça devient le générique de l'émission, parce que je trouve qu'il y a de la belle musique et on a eu l'occasion de rencontrer donc plusieurs fois Karim sur le débat du. Est-ce que quand on est musicien de base, est-ce qu'on est avantageux quand on devient aussi on interprète les chansons parce que peut-être qu'on a le métier qui est caché derrière dans le background du musicien, et je pense que ce que Karim fait aujourd'hui, ce qu'il a fait dans les derniers albums, ça vient aussi de son background de musicien puisqu'il est de base sur la base Karim, tu es musicien.
Je suis musicien de base, oui.
Et ça donne une force supplémentaire à aller chercher les notes nécessaires pour accompagner le texte.
En tous les cas, pour la composition. Ça aide beaucoup d'être musicien.
Non, puis c'est des albums excellents, je veux dire, puis productifs en plus de ça, il est sorti des albums en très peu de temps.
Inch'Allah, on va sortir d'autres albums et on va prendre le temps d'abord de.
On va y aller avec la danse de l'exil.
Ok, il n'y a pas de problème.
Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Donc, dans cette première partie, la première demi-heure, nous recevons Monsieur Kalim Ben Saada, donc artiste qui va être présent dans le cadre du Festival du Musique du Monde vendredi prochain au Théâtre Plaza. Et bien sûr, nous recevons aussi Monsieur Jean-Marc Ravatel, qui est directeur artistique du festival. Dans cette première partie, donc, on a eu un bref aperçu du festival, de ses objectifs que je considère très nobles, puisque nous savons l'immigration, l'intégration a toujours de grands défis et les musiciens sont une des victimes de cette intégration difficile. Comme vous l'avez mentionné, monsieur Ravatel, beaucoup de grands talents se retrouvent à faire autre chose au moment où le Canada, le Québec aussi et Montréal pourra profiter de leur donc niveau
de leur connaissance. Oui,
exactement. Pour revenir, avant de revenir une dernière fois peut-être au spectacle, j'ai une question par rapport au festival. Vous avez mentionné le fait que vous jouez aussi un rôle de directeur artistique, mais aussi de promoteur des artistes qui passent. Est-ce qu'il y a de la production à l'extérieur du festival, sachant qu'il y a peut-être parmi les auditeurs, il y a beaucoup d'artistes de la communauté maghrébine qui seront intéressés à participer à des activités qui vont leur permettre un petit peu de se repositionner.
Oui, tout à fait. Pendant la nuit blanche de Montréal, on a organisé Maghreb in Kashba, une grosse nuit maghrébine avec quatre groupes. Ça a commencé à 9h du soir, ça a fini à 2h du matin. Donc c'était toute une thématique autour du Maghreb. Donc il y avait et moi j'aime beaucoup parce que personnellement j'ai des goûts musicaux extrêmement larges. Donc on est passé du Gnawa, musique sud Maroc, avec Soukoun, qui est un groupe que vous connaissez peut-être. Après ça, il y a eu Bambara Trance, puis il y a eu Syncope. Donc dans la même soirée, j'arrivais à présenter un éventail très large, à la fois des origines des musiques du sud Maroc, en arrivant avec la modernité, avec Bambara Trance. Et il est certain que bon, je suis aussi l'agent du groupe Soukoun, et au-delà, je fais un travail à l'année d'essayer de pouvoir amener ces groupes-là avec des cachets raisonnables, parce que trop souvent, excusez-moi, mais les producteurs ou les diffuseurs se disent, oh, c'est des ethniques, on va les payer avec un lance-pierre. Et moi, je déteste ça. Je veux dire, un musicien qui soit algérien, qui soit africain, qui soit chinois, si sa musique est bonne, il doit être payé le prix que n'importe qui doit être payé. Mais ça, ça arrive même aux Québécois, je dis, il y a même des Québécois qui se font exploiter, on s'entend là-dessus. Donc moi, j'essaye de promouvoir un cachet raisonnable pour la qualité du produit.
Une question par rapport au festival, est-ce que toutes les soirées du festival qui s'étalent donc du 27 jusqu'au 7 mai, du 27 avril, se déroulent au même endroit?
Oui, au Théâtre Plaza, on a déménagé. Faut dire que c'est un festival qui malheureusement, comme je dis, était un peu resté discret parce que c'est un festival qui a malheureusement trop changé d'endroit. Et là, on était pendant 8 ans, on était dans le nord de la ville, dans une zone de la culture. C'était intéressant, mais on voulait vraiment se rapprocher du centre-ville, se rapprocher des quartiers ethniques, et là on est dans une place fabuleuse, je pense que Karim peut le confirmer, un lieu qui est vraiment très très beau, qui est pas trop grand, pas trop petit.
Professionnel aussi.
Oui, oui, professionnel, avec des techniciens d'enfer, des éclairages d'enfer, et on est au coin Beaubien Saint-Hubert, le Théâtre Plaza, tenu d'ailleurs par lui-même, par un Chilien, donc on reste vraiment dans le monde multiethnique, et on est content d'être là parce que c'est vraiment un beau lieu. et c'est pas trop loin. Donc on est à la croisée, on n'est pas très loin du petit Maghreb, on n'est pas très loin du quartier italien, on n'est pas très loin des, il y a beaucoup de latinos qui viennent sur cette rue là. Donc on est content d'arriver là, et je pense qu'on va rester pour longtemps dans cet endroit là parce que c'est un endroit qui nous convient tout à fait.
Karim, donc un retour sur la soirée du 6 février. Déjà, on annonce un mélange nord-africain et arménien. Connaissons aussi l'interaction culturelle entre la culture arménienne et la culture arabe. Donc, ça sera vraiment méditerranéen. Un mot sur cette soirée.
Moi, je veux juste dire que c'est un petit peu à part. Là, je veux juste dire que c'est une tradition de venir ici voir l'Amin. Puis aussi appeler nos compatriotes et les Maghrébins qui nous écoutent et autres aussi, il y a les Québécois aussi qui écoutent cette émission, qui viennent le 6, Inch'Allah, le 6
vendredi
mai,
prochain.
Au Tiet Plaza, parce que ça va vraiment chauffer.
Mais moi, j'irai plus loin. Moi, j'inviterai les membres de la communauté d'aller aussi à d'autres soirées.
Oui,
je veux dire que ça serait un moyen aussi de découvrir d'autres cultures. Et bien sûr.
Mais moi, je parle de ma soirée, là.
Non, mais j'ai pas encore terminé, là. Et bien sûr, ça serait un échauffement à la grande soirée du vendredi.
D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, on va faire un truc absolument génial pour la soirée de clôture, et ça, c'est une idée qui me trottait dans la tête. À chaque année, on invite un artiste qu'on appelle la bouche sur Nesquage Berg. C'est un artiste qui vient d'un pays, on a invité des Malgaches. Cette année, c'est un Haïtien. Ça fait 3 ans qu'il postule, finalement, il a pu venir cette année. Et je l'ai invité à la soirée Maghreb in Kajba. Et cet Haïtien, parce que bon, vous savez, la musique voodoo est une musique de trance. Et le Gnawa est une musique de trance. Et moi, dans ma tête, depuis très longtemps, je me dis, il faudrait mélanger sur le voodoo et le Gnawa. Donc, j'ai invité cet Haïtien à la soirée Maghreb, et il a vu Gnawa Dima, il a vu les crotales, le djembri, il s'est acheté un djembri, il s'est acheté des crotales, et c'est un Haïtien qui est en train d'apprendre la musique Gnawa, et l'intro du spectacle qu'il va y avoir en clôture, on va mélanger pour la première fois dans l'histoire de la musique le Gnawa et le voodoo.
Il va intégrer le groupe. Ils vont faire un
duo. Le début du spectacle de l'Haïtien est fait avec un groupe Gnawa. Donc, il va y avoir dans ce groupe-là des gens du Maghreb, il va y avoir des Québécois, il va y avoir des Haïtiens, donc c'est aussi cette volonté de briser les barrières, que pour moi la musique est un langage universel et tout le monde peut y trouver son choix là-dedans.
Karim, c'est sûr qu'on va écouter le vendredi 6 mai Echelium et la danse d'exilés, mais je me rappelle que dans une des rencontres qu'on a eues à Taxi Maghreb, il y avait une auditrice, si je me rappelle bien, qui t'a demandé dans une autre émission, mais qui t'a demandé de chanter Shabi Blarbia, Shabi Tana. Est-ce qu'il y aura aussi du Shabi dans le sens ta terroir traditionnel?
De toute façon, les istikhbars vont être toujours là, les istikhbars, c'est sûr. Chaque chanson, quasiment presque tout le répertoire, chaque chanson, il y a un istikhbar. Il y a du Sahli, il va y avoir du Ghrib, il va y avoir du Irak, il va y avoir des istikhbars Shabi. Mais il y aura une chanson aussi Shabi, pure et dure.
Pure et dure.
Voilà.
Donc, merci beaucoup. C'était Karim Saada, qui sera au Théâtre Plaza le vendredi prochain. Et donc, je rappelle, c'était dans le cadre du Festival de la musique du monde. Monsieur Jean-Marc, aussi directeur artistique, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Ah bon, bonsoir à tous. Alors
merci, merci Lamine, merci beaucoup.
Et comme ça.
À la prochaine.
On revient juste après la pause.
Je rêve tout le chemin que pourraient faire 8 millions de personnes ensemble. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Laissez pas les autres décider à votre place. Faites-vous entendre. Puis surtout, utilisez votre voix. Allez voter. 8 millions à unir nos voix. Ils vont nous entendre parler Québec jusqu'au Canada. Le 2 mai, parlons Québec.
Autorisé par l'agent principal du Bloc québécois.
Les rencontres berbères de Montréal. Un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h sur Radio Centre-Ville.
Facebook, Radio Centre-Ville, Aubaine. Facebook, Radio Centre-Ville, Aubaine.
Vous avez un profil sur Facebook? Êtes-vous intéressé par les aubaines? Sur Facebook, recherchez la page de Radio Centre-Ville. On a des offres intéressantes pour vous. Des produits et des services à super bon prix. Les sommes amassées servent à financer votre radio.
Facebook, Radio Centre-Ville, Aubaine.
Si votre matelas est abîmé par l'humidité, si les ressorts sont brisés, si vous avez des allergies ou si vous avez des punaises de lit, Lidor peut régler tous vos problèmes. Lidor, 6552 Saint-Laurent, au nord de Beaubien. www.lidor.com.
Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb, comme on l'a bien annoncé dans notre deuxième partie de l'émission. Premièrement, donc, j'annonce l'arrivée de notre collègue Samir. Bonsoir Samir.
Bonsoir Samir, bonsoir chers amis auditeurs.
Et bien, comme on l'a annoncé, la deuxième partie, ça va être avec notre invité qui est Dr Ahmed Ben Saada. Dr Ahmed Ben Saada, assez connu dans la communauté maghrébine à travers ses différentes interventions à plusieurs niveaux. Chercheur, enseignant universitaire à Oran, chercheur à l'École politique de Montréal, enseignant à la commission. Il est parmi les enseignants à la commission scolaire de Montréal et même au Québec, il est le plus titré à travers plusieurs prix, dont le prix du Premier ministre du Canada pour l'excellence de l'enseignement. Aussi, Monsieur Ahmed Ben Saada est connu à travers ses interventions médiatiques, plusieurs articles dans plusieurs médias, soit en Algérie et même en Égypte. Aussi connu sur d'autres domaines au niveau du travail communautaire. Monsieur Ahmed Ben Saada, dernièrement, je dirais cette semaine, nous a délivré un livre qui exprime sa réflexion ou ses recherches sur un sujet qui représente le sujet d'actualité, un livre qui s'intitule « Arabesque américaine, le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe ». Et ce soir, pendant une heure, nous allons essayer de démystifier, de comprendre le livre en termes d'objectifs et bien sûr en termes de contenu. Et surtout, qu'est-ce qui ramène dans ce débat, qui est, on peut dire, le débat de l'année, si peut-être ça serait le débat du siècle, puisque une grande transformation dans le monde arabe est en train d'arriver pour commencer. Bonsoir Ahmed.
Bonsoir Lamine, bonsoir Samir. Bonsoir Lamine. Et bonsoir à tous les auditeurs.
Pour commencer notre... bien sûr, je rappelle qu'à partir d'un certain moment, on va juste laisser à notre invité de développer un petit peu le sujet, de présenter le livre. Et le débat sera ouvert au 514-495-2597. Je peux vous annoncer tout de suite, on ne pourra pas prendre beaucoup d'appels puisqu'on a un invité. On voudrait prendre le maximum de temps, mais on prendra certainement quelques appels pour enrichir le débat. Monsieur Hedbou Saada, le monde arabe, même je dirais le monde en entier, même l'Occident, est ému, épaté par ce qu'on appelle les révolutions populaires, qui a commencé, on peut dire, la révolution tunisienne, qui a abouti à la fuite du président Ben Ali, aussi la révolution égyptienne, après le Yémen, on parle aujourd'hui de la Syrie, la Libye, avec une intervention militaire de l'OTAN. Qu'est-ce que votre livre apporte à cette situation qui est considérée par beaucoup de gens, si ce n'est pas la majorité, comme un éveil extraordinaire des peuples arabes?
Alors, j'aimerais juste commencer notre discussion de ce soir en disant que moi aussi je suis impressionné par la rue arabe et je suis impressionné par tout ce qui se passe dans notre monde qui avait besoin de changement. En fait, mon livre, il apporte, à mon avis, un éclairage sur les mécanismes, certains mécanismes, peut-être pas tous, mais certains mécanismes qui ont faciliter ce changement-là. Et donc, je me suis intéressé, en fait, dès le début des événements qu'a connu en particulier au début pendant la Tunisie, je me suis intéressé à cette notion de spontanéité de la révolte. Comment se fait-il qu'une révolte soit aussi spontanée que ça? Comment on arrive, après des décennies de régime, je dirais, autocratique, à arriver à avoir une étincelle qui permet de délier les langues et de délier les mouvements des populations arabes? Et cette réflexion-là m'a permis de découvrir que finalement il y avait un certain interventionnisme depuis des années dans le monde arabe. Donc il y avait en particulier les États-Unis ont aidé, je dirais, ce mouvement-là à être beaucoup plus structuré, à être beaucoup plus efficace, disons. Mais j'aimerais juste dire que je m'intéresse à ce phénomène de l'interventionnisme américain, pas d'aujourd'hui. En fait, j'avais écrit en 2009 un article qui a été beaucoup repris sur Internet, où j'avais analysé l'interventionnisme américain en termes de nouvelles technologies pendant l'été 2009, lorsqu'il y avait les révoltes en Iran. Et j'avais montré d'ailleurs que la position des États-Unis était totalement différente, en fait, de l'Occident en général était totalement différente quand il s'agissait des événements de Gaza, par exemple, qui s'étaient passés quelques mois avant, et lorsqu'il y a eu les émeutes en particulier à Téhéran, on a vu pour la première fois l'utilisation de Twitter à très grande échelle, et surtout, c'était la première fois qu'on voyait des images qui n'étaient pas professionnelles, en fait des images qui n'étaient ni professionnelles ni par ceux qui les ont prises, mais aussi du point de vue qualité. En général, quand on va à la télévision, etc., ou à la radio, quand le son n'est pas bon ou quand l'image n'est pas bonne, on la censure.
Non, je peux même vous confirmer dans ce sens-là. J'ai eu l'occasion d'animer la caravane du Maghreb pendant 8 ans et j'avais des problèmes, des fois des artistes qui arrivaient avec des enregistrements.
De mauvaise qualité, là, ça passe pas.
Ça passe pas, c'est impossible. Exactement. La réalisation n'accepte pas de faire passer...
Très généralement, moi je me rappelle des années où par exemple on avait un problème de communication téléphonique, par exemple, où il y a de la friture dans l'air. C'était audible, on pouvait comprendre, mais dès qu'il y a de la friture dans l'air, on la coupe. Alors que maintenant, à partir de 2009, disons, ça a été vraiment flagrant, on admet des images qui ne sont pas contrôlées, et des images, je dis pas qu'elles sont pas vraies, mais disons qu'elles ont pas été prises par des professionnels, pas par des journalistes, et dont la qualité est extrêmement douteuse. À la limite, des fois, on comprend même pas ce qu'il y a, ou on devine ce qui se passe, et on les diffuse à très très grande échelle dans tous les médias majeurs. Alors, à partir de 2009, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et c'est cette réflexion qui m'a permis justement de voir un peu plus clair dans ce qui se passe dans la rue arabe maintenant.
Ça m'est juste rapidement une question qui revient peut-être ou ce serait la première réaction de quelqu'un qui va entendre parler de ce livre-là. Est-ce que ce livre est en train de dire qu'en fin de compte les peuples arabes n'ont pas bougé tout simplement, ils sont téléguidés par les États-Unis?
Alors, la plupart des réticences que j'ai vues par rapport au titre du livre, parce que la plupart des gens ne l'ont pas lu, mais juste par rapport au titre ou par rapport à l'article. Parce que avant le livre, en fait, j'avais écrit un article j'avais publié un article dans le quotidien d'Oran, qui a été repris, vraiment, qui a fait un buzz. Il a été même traduit en quelques langues. Et les premières réticences par rapport au titre, c'était de dire: nous ne sommes pas capables, nous les Arabes, finalement, c'est impossible. Nous avons une révolution, nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi maintenant mettre la main des États-Unis derrière ça? Et cet aspect de, je dirais, de sanctification de l'action populaire est difficile à enlever de la tête des gens. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, quand des jeunes font, surtout des jeunes qui font quelque chose, ça doit être sain, il doit pas y avoir d'intervention.
Ça soit immaculé.
Voilà, ça soit immaculé, comme je dis dans mon livre. Mais moi, je dirais que, d'ailleurs, après avoir discuté avec plusieurs personnes, je dirais que nous arrivons dans le monde arabe à une situation qui est analogue à celle qu'on avait dans les années 60 en termes de décolonisation de l'Afrique, ou dans les années 2000 avec la scission avec l'ancien empire soviétique. En fait, nous arrivons après 4 décennies ou plus à arriver à ce que les peuples ne sont pas, les peuples arabes ne sont plus représentés par ceux qui les gouvernent. Et cet aspect-là est pas négligeable. C'est en fait la raison principale de ce qui se passe actuellement dans les pays arabes. C'est cette déconnexion entre les gouvernants et les gouvernés. Et en fait, moi, ce que je dis dans ce livre, c'est que probablement que les États-Unis ont précipité cette action-là. Parce que elles ont donné lieu à des révoltes qui sont beaucoup plus entre guillemets civilisés, contrairement à ce qu'on voit maintenant, ce qui se passe en Libye ou qui risque de se passer par exemple en Syrie.
Mais docteur Bouzada, il faut admettre une chose, c'est que Bouaziz El Rahmo, quand il s'est immolé, où est la main des États-Unis ici? On ne la voit pas.
Alors, la main des États-Unis, on ne la voit pas dans l'acte de Bouazizi. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir dans l'action des États-Unis, ça on peut le voir dans le livre, c'est que l'action des États-Unis, c'est une action de longue haleine. Mm-hmm. C'est-à-dire que depuis, je dirais, moi je suis remonté peut-être après le 11 septembre 2001, les États-Unis se sont dit, bon, il y a des peuples qui ne nous aiment pas. Okay, et ces peuples-là, c'est les peuples arabes. À chaque fois qu'il y a une manifestation sur n'importe quoi, ils brûlent notre drapeau, etc. Donc, et puis en plus, ils viennent, ils nous attaquent chez nous, etc. Donc, alors, quelle est l'action à prendre pour que ces gens-là, ces peuples-là, soient de notre côté, en fait? Comment, et c'est en ça que, à mon avis, la politique américaine est très intéressante. Mm-hmm. Je l'approuve pas tout le temps, mais disons que elle est très très réfléchie. Et en fait, même les États-Unis ne s'attendaient pas qu'il y ait voir à ça, et qu'il y ait voir une révolte en 2010.
Ils n'ont pas déclenché la révolte.
Ils n'ont pas déclenché. Ils l'ont soutenu.
Est-ce qu'ils l'ont récupéré, ou est-ce qu'ils l'ont poussé?
Dans mon livre, moi, ce que je dis, c'est qu'ils ont formé des gens au cas où il y aurait quelqu'un qui fasse quelque chose et que ça.
Ils ont fait de la guerre préventive.
Ils ont fait de la formation
préventive. De la diplomatie préventive.
Exactement.
Je vous rappelle, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, on reçoit Dr. Ahmed Ben Saada, donc auteur du livre Arabesque américaine, le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes, qui sort dans les éditions Michel Brûlé. Donc il est disponible à partir de cette semaine au niveau des librairies ici au Québec.
Donc Lamine, docteur Saada, moi j'ai lu le livre, je me suis retrouvé en train de faire de la promotion autour de moi, mais la première réaction, qu'est-ce qu'on disait aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 2 heures de ça, un collègue me disait, mais moi je m'en fiche comment ça s'est passé, l'essentiel c'est que le résultat est là, c'est que les dictateurs partent. Alors, c'est quoi la pertinence de ça?
Alors, en fait, cette question-là a été posée à plusieurs niveaux. En fait, si on remonte, par exemple, dans le des révoltes qui sont similaires, qu'on appelle les révolutions colorées, qui sont passées dans les pays de l'Est, en Serbie, en Ukraine, en Géorgie.
Et ça, c'est documenté.
C'est documenté, on le sait, et puis même les gens reconnaissent. Je veux dire, vous avez des films, par exemple, si vous allez sur mon site www.ahmedbensaada.com, vous allez voir des documentaires où vous allez entendre parler des gens. Ils vont dire, nous avons fait, nous avons aidé ces gens-là. Probablement que ça va se passer, ça va être la même chose dans quelques années pour ce qu'on est en train de vivre maintenant. Mais ce qui est intéressant c'était quoi?
L'essentiel qu'on a viré les dictateurs.
C'est-à-dire que quand on a parlé aux gens de la Géorgie, par exemple, on a dit, mais là, c'est les États-Unis qui sont en train de vous aider, faites attention. Ils ont dit, on s'en fout. Ils ont dit, autre chose. Vous avez par exemple un cyberactiviste qui s'appelle Samim Gharbia, qui est tunisien. C'est un de ceux qui a créé Nawet.org, qui s'est posé la question. Il a dit, nous sommes actuellement formés par les aidés par les États-Unis, mais les États-Unis, eux autres, est-ce pourquoi ils nous forment actuellement? C'est quoi? Alors, même les cyberactivistes, d'ailleurs, j'encourage tout le monde à lire cet article. C'est un article qui fait 26 pages, très intéressant de Samim Gharbia.
Il est sorti avant.
Et voilà, moi, j'ai pas pu le mettre dans le livre parce que j'avais pas accès à ce. Et il est sorti juste avant que Ben Ali quitte.
Lui, dans sa thèse, c'est que le fait qu'il soit aidé par les États-Unis, ça va permettre aux États-Unis de les récupérer.
Exactement.
Tous. C'est-à-dire, même cette soi-disant liberté, elle va être contenue.
Exactement.
Dans...
Donc, les cyberactivistes eux-mêmes se posent cette question-là. Donc, ce que tu dis, toi, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, même les gens qui ont été formés plus ou moins par les États-Unis ou qui ont été aidés par les États-Unis, parce qu'on pourra voir au courant du livre que les États-Unis, il y a une aide directe qu'on peut quantifier, etc. Exact. Il y a de l'argent, il y a des moyens qui ont été
mis. Mais là, on n'est pas dans la théorie du complot.
Alors, toujours, quand on parle de choses qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot? C'est comme un terroriste, en fait. Un terroriste, c'est toujours quelqu'un qui est contre l'opinion qui est dominante. Alors, la théorie du complot, c'est toujours quelque chose qui passe pas à la télé. Alors, moi, ce que je dis, c'est que nous vivons actuellement, comme les cyberactivistes ont fait leur révolution, entre guillemets, moi j'appelle ça une révolte, ils ont fait leur... Ben, nous aussi, en tant que citoyens, on peut faire notre révolution, c'est-à-dire en disant notre point de vue et en étayant notre point de vue avec des arguments solides. Ben, on est capable de montrer qu'il y a une face cachée de l'information qui n'est pas dite. Et c'est à nous, citoyens, on appelle ça le journalisme citoyen, c'est à nous, citoyens, de dénoncer ça et de faire savoir.
Nous,
ça.
On a compris que les blogueurs, c'est eux qui faisaient les journalistes citoyens à un moment.
Probablement, oui.
Je rappelle que nos chers auditeurs, il y a beaucoup d'appels qui rentrent, mais on va juste donner l'occasion à notre invité de développer sur le livre. Et après, à partir de 11h30, c'est sûr qu'on prendra les appels pour vous permettre de participer au débat. Mais ce qu'on va essayer de profiter à la première demi-heure, c'est un petit peu les possibles questions de quelqu'un qui va considérer le livre comme plutôt un moyen de promotion de la dictature dans les pays arabes. On va essayer d'aborder juste avant la pause publicitaire aussi la démarche. Est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est vraiment une enquête juste pour un petit peu positionner nos chers auditeurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire, et on ouvrira le débat sur le contenu à la deuxième demi-heure. Une autre question, c'est que chez nous, en Algérie, dans le Maghreb, dans les pays arabes, on a comme une règle qui est non écrite mais qui est quand même utilisée pour évaluer les décisions. Si les Américains ou l'Occident aime un président, c'est qu'il est mauvais. Et si les Américains font quelque chose pour participer à enlever un président, c'est qu'il est bon. Si le livre aujourd'hui vient nous dire que, en fin de compte, les Américains ont aidé les Tunisiens pour le départ, d'une façon directe ou indirecte, pour le départ de Moubarak, qui pourront peut-être aider les Algériens demain pour le départ de Bouteflika, et que ils ont aidé les Égyptiens pour le départ de Moubarak, un des alliés des Américains. Est-ce que c'est parce que Moubarak travaille pour l'intérêt de l'Égypte au détriment de l'intérêt des Américains, ou qu'est-ce qui se passe exactement?
Alors, cette question a été posée dès le début, donc c'est une question qui revient tout le temps. Pourquoi Moubarak, on l'a mis à la porte? C'est que pour les États-Unis, les présidents sont interchangeables. Ça veut dire que lorsque vous regardez, par exemple, au début des années 2000, dans les révolutions colorées, les présidents qui étaient en place, c'était des présidents qui étaient pro-américain.
Shevardnadze
était pro-américain. Il a même participé à la première guerre du Golfe. C'est-à-dire qu'il était pro-américain. Il a participé à l'OTAN. Il voulait rentrer dans l'OTAN. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont sur place, qui font tout pour se faire aimer par les États-Unis. Mais ce qui intéresse les États-Unis, ce sont les intérêts américains. C'est-à-dire qu'on peut Moubarak est quasiment interchangeable. Et dans le cas de Moubarak, c'est encore beaucoup plus grave que ça. C'est que Moubarak, ça faisait des années qu'on voulait le changer. Si vous lisez la littérature à ce sujet-là, c'est que le président Moubarak avait des problèmes avec les États-Unis par rapport au Soudan. Par exemple, ce qui est passé en fait sous silence, c'est que il y a quelque chose d'extrêmement grave qui se passe actuellement, c'est qu'un pays a été divisé en deux. Puis il y a quasiment aucune information qui filtre.
Le monde est occupé
par quelque chose. Puis on prend un pays, on le coupe en deux, ok. Et ça, on sait très bien que ce sont les États-Unis qui sont derrière ça. Et pendant des années, Moubarak et son ministre des Affaires étrangères de la Reit, ils ont tout fait pour que les gens votent pour ne pas faire la scission. Donc ils ont investi des sommes d'argent, ils ont construit des mosquées, ils ont construit des écoles, ils ont fait énormément et ça ne plaisait pas aux Américains.
Donc il y avait une tendance à l'indépendance vis-à-vis des...
Exactement, parce que vous savez très bien que le Soudan, c'est comme un État qui... quasiment, je dirais, sous la tutelle,
égyptienne.
Pas tutelle, mais disons,
c'est l'influence culturelle.
Exactement, c'est l'influence culturelle. Il y a énormément d'influences culturelles. Il y a énormément d'Égyptiens qui vivent là-bas. Donc, et en plus, il y a l'histoire du Nil, etc. Donc, dans l'intérêt de l'Égypte, c'était de garder le Soudan uni. Et ça faisait pas l'affaire des Américains.
Monsieur Bissadam, moi j'ai une question par rapport à votre livre, dans la fabrication de votre livre, si je peux dire. C'est quoi l'approche que vous avez adoptée? Est-ce que c'est une analyse de la situation ou bien est-ce que vous avez fait une enquête?
Alors,
et si c'est une analyse, généralement l'analyse elle sort de Sciences Po et des relations internationales. Là, elle vient d'un docteur en physique.
Alors, ce qui est intéressant dans l'ère dans laquelle on vit, c'est que nous avons les moyens, le citoyen a les moyens de se faire une idée précise du monde qui l'entoure. Et moi, ce qui me déçoit, c'est que les plus grands spécialistes de la matière, les plus grands, ce que vous dites là, les politologues, etc., ne nous parle pas de choses dont je traite dans le livre et qui est accessible. Je veux dire, ça demande un peu de travail, c'est certes, mais c'est accessible. Ce sont des données. Moi, je ne travaille pas avec la CIA, je ne travaille pas avec les services secrets, etc. Donc, j'ai juste fait un travail de recoupement d'informations, d'aller chercher la crédibilité de l'information et de se faire un portrait complet de la situation. C'est comme si on avait un casse-tête, un puzzle, et on met les parts pour avoir une idée globale intéressante et voire claire du jeu des États-Unis par rapport au monde arabe. Et ce que j'ai fait moi, c'est exactement ce qu'on appelle le journalisme citoyen qui est très en vogue actuellement. Si vous allez sur Agora Vox sur Investigation, en général, ce qui ne se dit pas dans la télévision, ben ça se dit sur Internet.
Est-ce que les liens que vous établissez entre les jeunes activistes dans les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook et aussi dans Internet en général, et je dirais le lien financier peut-être entre des organismes qui ont aidé ces révolutions et qui aideront peut-être les prochaines révolutions, puisqu'apparemment la liste est longue, la liste des révolutions, je ne pense pas qu'elle va s'arrêter au pays qu'on a cité. Est-ce que c'est des liens qui se basent sur des faits documentés dans des instances officielles américaines, ou parce qu'on... Un des problèmes actuellement, c'est le doute partout. Et le doute du doute, c'est que on se rappelle sur l'histoire du 11 septembre, il y avait la version officielle, après il y a la version non officielle, il y avait le doute sur la version officielle et le doute. Et là, on est un petit peu perdu. Juste en termes de sources qui ont alimenté votre analyse et votre livre, est-ce qu'on parle de sources officielles à un taux très élevé ou est-ce que, comme on le sait tous, il y a beaucoup de sites altermondialistes qui sont connus à faire la promotion de la...
Là, je peux le défendre. J'ai vu tout le livre, j'ai vu les notes. Écoute, quand tu vas source New York Times, tout ça, là, ça.
Alors, je voulais juste avec Samuel, c'est que je suis au départ un scientifique, donc les sources sont très importantes pour moi. C'est-à-dire que en science ou peut-être en sciences sociales probablement aussi, c'est que les sources sont on ne peut pas citer n'importe qui. Et en plus, même ces sources-là, même du New York Times ou Los Angeles Times par exemple, ou du Washington Post ou autres, je l'ai recoupé. C'est-à-dire que même ceux-là, je l'ai recoupé. J'allais voir si les dates concordaient, si etc. Mais alors. Pour ce qui est, par exemple, de financement, vous avez des sites actuellement, ce qui est aussi bizarre, c'est que vous avez des sites d'organismes qui font la promotion de la démocratie à l'extérieur des États-Unis qui publient leurs chiffres. Vous allez sur la NED, par exemple, la National Endowment for Democracy, vous allez avoir tout l'argent qui a été donné en 2009, par exemple. Alors, c'est donné en chiffres, mais c'est donné à qui et pourquoi? Donc c'est très très détaillé, mais malheureusement on n'a pas les chiffres de 2000 avant ou après. Après c'est parce que ça a été mis en 2010, là on va les avoir bientôt, mais ceux de 2009 je les ai mis dans le livre. Vous avez, j'ai mis l'adresse internet où vous pouvez, chacun de vous peut aller là. Vous avez par exemple un organisme qui s'appelle Alliance for Youth Movement, c'était l'alliance des mouvements des jeunes, qui a organisé trois conférences en 2008, en 2009 et en 2010, qui est organisée par le département d'État américain. Et dans ce site-là, vous avez la mission, alors je vous la lis, on identifie les activistes, on les connecte et on les supporte. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on identifie des activistes, mais pas n'importe quel activiste, on identifie les leaders. On les connecte entre eux et avec le gouvernement américain, et on les supporte, c'est-à-dire matériellement, etc. Alors, cet organisme qui s'appelle Movement.org a été co-créé par Jared Cohen, qui était il y a pas longtemps le conseiller de Clinton et de Rice au Département d'État.
Mais en fait, quand ça me ramène l'autre question, bien qu'il nous reste à peu près 2 minutes pour la publicité, mais je pense qu'on pourra vous donner l'occasion de répondre à cette question. Où est le mal que des ONG américaines, les États-Unis c'est quand même une grande démocratie, on peut pas le nier, au moins à l'intérieur et quand même s'ils font des dégâts à l'extérieur, mais où est le mal qu'une ONG, le peuple, c'est une ONG, c'est pas l'État, aide d'autres peuples à faire la promotion de la démocratie, de la liberté.
Alors, premièrement, les ONG ne sont pas des ONG. On sait très bien que c'est les États-Unis, c'est le gouvernement américain qui les donne. Ils disent que ce sont des ONG publiques et privées, alors qu'elles ne sont pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a une loi américaine qui ne permet à aucun étranger de financer quoi que ce soit aux États-Unis. Alors, les États-Unis interdisent aux étrangers de financer. Si vous voulez financer un parti, vous ne pourrez pas. Et ce sont les États-Unis qui les financent. Autre commentaire, c'est le fait que pourquoi les États-Unis le feraient gratuitement? L'histoire nous dit que les États-Unis n'ont jamais rien fait gratuitement.
Un autre élément, bien qu'il nous reste 50 secondes, mais on a vu aujourd'hui que les frères musulmans en Égypte ont créé un parti politique, et on sait très bien qu'en Tunisie ça va être le cas, et c'est le cas déjà. Est-ce que ça serait pas une contradiction que les Américains vont créer, je dirais, une situation démocratique qui va permettre peut-être l'arrivée des frères musulmans au pouvoir dans ces pays-là?
À mon avis, non. Parce que ce qui est important pour les États-Unis, à mon avis, c'est de donner une bonne image des États-Unis, une image positive. Et je dirais que c'est la première fois depuis que je vois des manifestations qu'il n'y a aucun drapeau américain qui a été brûlé dans les manifestations.
Un élément qu'il faut mentionner, que même Tariq Ramadan dernièrement l'a mentionné dans une conférence. Vous êtes bien à l'écoute de Taxi Maghreb, on prend la pause publicitaire. Après ça, on reprend vos appels, 514-495-2597.
Je rêve tout le chemin que pourraient faire 8 millions de personnes ensemble. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Laissez pas les autres décider à votre place. Faites-vous entendre. Puis surtout, utilisez votre voix. Allez voter. 8 millions à unir nos voix. Ils vont nous entendre parler Québec jusqu'au Canada. Le 2 mai, parlons Québec.
Autorisé par l'agent principal du Bloc québécois.
Emploi, actu,
relations de travail,
formation, diplôme,
compétences,
apprentissage,
formation,
emploi,
actu, Les lundis de l'emploi, c'est tous les lundis de 8h à 9h sur Radio Centre-Ville.
Pour l'intégration de tous sur le marché de l'emploi au Québec et au Canada. Et c'est animé par Gwen.
On vous invite à nous écouter en direct de la bibliothèque Mont-Royal, mercredi le 4 mai, de 9h à 11h. Nous sommes les élèves de l'école Saint-Enfant-Jésus. Nous vous parlerons des différences comme l'homosexualité, le racisme et d'autres sujets. Alors, mercredi de 9h à 11h à Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Cherchez-vous un travail immédiatement? Travailglobal.com. Appliquez aujourd'hui, travaillez demain. Travailglobal.com ou 514-666-1562. Secrétaire, journalier, manufacturier, voyez les emplois sur travailglobal.com ou 514-666-1562.
Depuis 35 ans, nous donnons le micro aux Montréalais et Montréalaises afin qu'ils se rencontrent. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Ce soir, on parle du dernier livre du Dr Hamid Ben Saada, Arabesque américaine, le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe. Nous allons commencer à prendre les appels au 514-495-2597, 514-495-2597. Je pense qu'on va commencer directement, Samir, avec les appels. On va prendre Belkacem. Bonsoir.
Bonsoir Lamine, bonsoir Samir, bonsoir docteur, sans oublier les auditrices et auditeurs. Moi, ce que je voudrais dire, ce que j'avais dit en 2001, juste après les attentats, que les États-Unis, normalement, juste après qu'ils étaient attaqués chez eux, jamais dans l'histoire, de revoir leur politique étrangère depuis des décennies. Malheureusement, l'époque de Bush, comme il est un mauvais élève, il n'apprend pas bien ses leçons, comme l'impérialisme. Donc, du destin des gens qui veulent la liberté et tout, qui voulaient importer, exporter la démocratie dans les pays arabes, du Grand Maghreb jusqu'à, je sais pas, en Asie et tout. Obama, je crois que c'est une autre direction. Donc je crois qu'il a bien compris, parce que les Américains disaient pourquoi on nous haït, pourquoi on nous aime pas, pourquoi on nous déteste et tout. Je crois que ces révolutions-là, comme je l'ai dit, ça va changer toute politique dans le monde.
Belkacem, juste pour comprendre, c'est que toi, ce que tu dis, que c'est normal que les Américains, et que l'approche de Obama est plus intéressante, elle est plus soft, et qu'il a compris qu'il doit nous aider à enlever les présidents pour qu'on aime les États-Unis, et tu penses pas que c'est fait un petit peu pour nos beaux yeux, c'est pas fait pour que les Américains vont mettre d'autres pouvoirs qui vont les manipuler d'une autre façon.
Je voulais dire, puisque j'allais, avant que tu me poses cette question, j'allais dire que ces révolutions, ils n'ont rien d'idéologie. C'est des jeunes qui ont commencé, et après là, tous les peuples ont suivi pour œuvrer ces révolutions. Et ce que je voudrais dire, c'est que, comme il a dit le docteur, dans son livre, c'est que maintenant, les Américains, il y a des dirigeants arabes qui leur ont donné l'occasion pour intervenir, comme on voit en Libye, comme on va voir en Syrie. Donc, c'est ces dictateurs-là qui ont donné l'occasion aux Américains. Pourquoi pas en Tunisie? Pourquoi ils sont intervenus en Égypte et ça a bien marché? Et donc, c'est une réussite dans leur diplomatie. Et je crois qu'ils veulent, à travers ces révolutions, après moi, pour changer leur image dans ce monde musulman et arabe.
Merci beaucoup, Belkacem.
Merci.
Donc, je prendrai Salim. Bonsoir.
Allô. Bonsoir, chers amis auditeurs du tri, et bien avant Monsieur le Docteur, ainsi tout le monde qui est autour de la table.
Merci Salim, Tfadal.
Moi, j'ai l'impression, avec mon imagination tout à fait personnelle, je pense que c'est la même stratégie, que ce soit les Américains sont. Ils ont une ingérence indirecte en quelque sorte. Ils ont mis en avant-plan la France. C'est bien entendu, hein, Ils ont pris en avant-plan la France, la Grande-Bretagne et autres. Mais eux, ils sont là. Parce que la dernière décision, c'est de l'envoi des drames en Libye. Ça a été pris une décision comme ça, unilatérale, il ne revient pas. Les drones sont en train d'attaquer. Mais c'est une autre stratégie sous une autre forme pour ainsi camoufler leur intervention précédente, directe. Voilà. Et puis, je pose la question à monsieur le docteur, qui est là-bas, qui est plus apte à répondre. Est-ce que le réseau Wikileaks, on le sait bien déjà, les analystes commencent à en faire sortir pas mal de points, que c'est un réseau purement de la CIA, ça c'est clair. Est-ce que Wikileaks n'a pas en quelque sorte boosté, donné une certaine influence, etc. à ces pays arabes pour se révolter? Parce que moi, je considère que révolution et soulèvement, c'est deux choses un peu distinctes, s'il peut nous expliquer en deux mots tout simplement.
Merci beaucoup. Et avec ça, Hassan, ma question est passée. Est-ce qu'il y a une autre question sur un autre... Allez, Salim, parce que je voudrais un petit peu optimiser le temps. Donc,
oui,
ok, merci beaucoup. La question de Salim, c'est surtout sur le réseau. Est-ce que dans le livre, vous faites une relation entre 250 000, je pense.
250 000 câbles, c'est ça.
C'est vrai, c'est une question qui a été posée, même on l'a posée ici.
Oui, 250 câbles 000 filtrés
câbles
aussi,
filtrés, tout ça. Est-ce que c'est pas peut-être que les États-Unis qui ont participé à travers ces câbles-là de dévoiler la réalité des dirigeants arabes?
Ok. Alors, dans le cas, dans les deux cas, le cas égyptien et le cas tunisien, à mon avis, ça a un très grand rôle. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai utilisé quatre câbles concernant l'Égypte que j'ai étudié et que j'ai recoupé avec de l'information des grands journaux. Et ça a été extrêmement intéressant de voir comment, par exemple, l'ambassade américaine travaille au Caire. Dans le cas de la Tunisie, il est clair que dès que les câbles ont commencé à sortir sur la Tunisie, les cyberdissidents tunisiens ont créé ce qu'on appelle Tunisia Leaks. Et ils ont créé un mini Wikileaks juste pour la Tunisie. Tous les observateurs disent que ça a été un élément extrêmement important dans le déclenchement de la révolte de la rue tunisienne. Donc je suis parfaitement d'accord que le Wikileaks ça a beaucoup aidé.
Non mais Salim il dit, est-ce qu'il y a un lien entre les services secrets américains?
Ok, c'est un autre. Ça là, je vais vous dire une chose. J'ai écrit un article qui s'appelle « Et si Wikileaks était une supercherie médiatique ?» Je me suis posé énormément de questions sur Wikileaks parce que, en fait, c'est pas que vous êtes au courant, mais tous les câbles Wikileaks passent par cinq journaux, uniquement cinq journaux, et le journal le plus important, celui qui filtre les messages, c'est le New York Times. Et on sait très bien que le New York Times, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent avec la CIA. Ça, c'est connu. Donc, ce sont des présomptions. En fait, on n'a pas de preuves, mais les preuves sont assez accablantes dans la mesure où, même dans mon article que j'avais sorti il y a quelque temps, on n'a pas vu grand chose sur Israël, par exemple.
Oui, ça, il devait sortir quelque chose, mais c'est pas sorti à la fin. Mais dites-moi, dans votre livre, vous parlez un peu de Wikileaks, mais est-ce qu'on peut revenir un peu au livre lui-même, comment est-ce que vous l'avez structuré? Vous avez,
alors,
j'ai vu que vous avez, au début, vous nous avez présenté quels sont les organismes.
Exactement. Donc, moi, je suis, comme vous l'avez mentionné au début, je suis pédagogue. Donc, j'aime bien que quand quelqu'un lit un livre, qu'il ait une suite logique dans les propos. Donc, je l'ai commencé avec les révolutions colorées, dire c'est quoi les révolutions colorées. Ensuite, j'ai parlé
rappel, oui, quand vous parlez de révolution colorée.
Alors, révolution colorée, ce sont les révolutions qui se sont passées dans les années, au début des années 2000 dans les ex-pays soviétiques, en Ukraine. Il y a l'Ukraine, il y a la Géorgie, il y a la Serbie, et où il y a même aussi le Kyrgyzstan. Et en fait, il y a même eu en URSS, mais ça n'a pas marché, en fait. Et donc, les révolutions colorées. Ensuite, on parle des ce qu'on appelle les organismes qui, entre guillemets, exportent la démocratie. C'est qui eux autres?
Est-ce que ça, c'est des ONG ou c'est des organismes?
Alors,
juste en quel...
ce ne sont pas. Il dit donc quand on rentre dans leur à part l'USAID qui dépend directement de son budget dépend de l'État américain. La NED par exemple, ils disent que c'est une ONG, mais en fait on sait très bien que le Département d'État vote ses budgets.
C'est-à-dire c'est comme si c'était une entreprise publique. C'est comme si des entreprises.
Exactement. Et ça ne veut pas dire qu'ils reçoivent pas des dons publics. Ils reçoivent, mais l'essentiel des sommes qu'ils ont à leur disposition vient des États-Unis. par exemple, vous avez, par exemple, j'aimerais parler de Soros, par exemple, qui est un financier, spéculateur financier américain, qui lui finance, il a déjà financé les révolutions colorées, mais en plus, il a déjà financé des rencontres, par exemple, au Caire, en 2009, il avait financé une rencontre pour tous les cyberactivistes arabes, par exemple, au Caire en 2009.
Donc, en fait, quand on a des organismes qui sont officiellement des ONG, mais en réalité, ils sont financés par l'État américain, on a des activistes et des leaders politiques.
Sur ce point-là, c'est pas quelque chose de secret, c'est que juste on n'en parle pas.
C'est ça, c'est un élément qui a été monté dans le livre. Un autre élément, c'est le fait où peut-être vous voulez.
Je voulais juste dire à Samir que si on va sur le site de la NED par exemple, ils disent pas qu'ils sont financés par mais les gens, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis qui disent que par exemple Soros, il est pas financé par l'État. Lui se finance lui-même, c'est un milliardaire, il donne des millions à travers le monde pour justement que les sociétés s'ouvrent. En fait, ce qu'il veut, c'est le libre marché, c'est ce qu'on appelle l'open society, c'est-à-dire une société complètement ouverte. Il ne faut pas que l'économie du pays soit gérée par l'État, par exemple.
Donc, pour revenir au livre, on a des ONG américaines qui sont en réalité pas d'autres ONG, puisqu'ils sont financés, et même il y a des décisions d'orientation de politique de ces ONG-là.
Exactement.
On a des activistes ou des leaders politiques d'opposition arabe.
C'est ça. Après cela, j'ai parlé du rôle des États-Unis par rapport aux nouvelles technologies. Pourquoi il y a toujours Google, puis Facebook, puis Twitter, puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans les pays arabes, Clinton, elle vient et dit, ok, il faut laisser Twitter, il faut laisser, vous ne devez pas couper l'internet. Pourquoi Hillary Clinton s'intéresse à Google, qui sont normalement des compagnies qui sont privées? Ce ne sont pas des compagnies d'État. Mais en fait, qu'on se rend compte que ce sont des compagnies privées qui sont où le département d'État a le droit de parole. En fait, je le montre dans le livre. C'est que, par exemple, en 2009, quand il y a eu les émeutes à Téhéran, Twitter devait arrêter son service pour la maintenance.
Oui.
Clinton a exigé à Twitter de ne pas fermer. Par exemple, en Égypte, pendant 4 jours, l'internet a été coupé. Twitter et Google ont mis des ingénieurs entre eux pour sortir ce qu'on appelle speak to tweet. Ça veut dire que avec un téléphone, pas un téléphone mobile parce que c'était coupé, mais avec un téléphone analogique, on pouvait appeler des numéros aux États-Unis, en France, etc. Et notre appel, l'appel de vocal, se transformait en tweet directement. Pourquoi des compagnies comme ça s'intéressent à la révolution et ils le font entre la nuit et le jour? C'est-à-dire qu'ils ont sorti le produit Speak to Tweet, ils l'ont sorti extrêmement rapidement pour justement que les activistes égyptiens ne soient pas... Alors, autre chose aussi, par exemple, il y a le programme Tor. Tor, c'est un programme qui permet de contourner la censure étatique. Tor est financé, on sait qu'il est financé par le département d'État, et un de ces gourous s'appelle Jacob Applebaum, et il passe son temps à donner des conférences à travers. Là, j'ai mis sur mon site aujourd'hui 3 conférences qu'a donné Applebaum en 2009 en Jordanie, par exemple. Et ça, c'était bien avant les émeutes qu'on a maintenant.
Monsieur Saada, les activistes ils sont sortis de l'ombre tout seuls, et après ils ont été récupérés. Les gens, il y avait un besoin que les gens s'activent sur le cyberespace.
Tous les jeunes du monde entier s'intéressent aux nouvelles technologies. Comme j'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, à chaque fois qu'ils offrent des formations, ils les forment aux leaders. Ils cherchent un leadership. Il y a des gens qui me disent, mais comment ça se fait? Il y a eu des millions de gens dans la rue. Comment ça se fait? Il y a des activistes, il n'y en a pas des millions. J'ai dit non, parce qu'avec ça, tu n'as pas besoin. Avec quelques leaders, une centaine de leaders, tu peux ameuter un peuple en entier.
Et c'est quoi votre commentaire sur le fait que René, mais il est maintenant le...
C'est absolument extraordinaire.
Ouais, il faut rappeler.
Alors, El Roneim, c'est un gars qui a créé une page Facebook qui s'appelle Nous sommes tous Khaled Saïd. Un jeune qui était tué dans les geôles de Moubarak, et ce monsieur-là est venu faire la révolution. Il travaille chez Google à Dubaï, et il est venu faire la révolution. Donc la révolution égyptienne a commencé le 25 Et lui, il est venu le 23, deux jours avant. Il est venu faire la révolution. Il a eu un congé de Google, entre guillemets. Et il est venu, il a été mis en prison pendant une dizaine de jours. Quand il est sorti, la chaîne Dream TV l'a invité et il a commencé à pleurer sur, et il est devenu un héros. Deux jours au lendemain, il est devenu un héros. Bah, deux jours plus tard, Moubarak était parti. Donc, lui, il est devenu un héros et là, il vient d'être nommé l'homme le plus influent.
Part-time.
L'homme le plus influent du monde.
Monsieur Moussaada, bon, je vous entends parler de l'intervention de Google, de Facebook, de Twitter, mais les Américains, quand même, c'est une démocratie, donc c'est normal qu'il y ait des gens de bonne volonté au sein de l'océan américain qui voudraient que la démocratie se propage partout pour éviter de créer des terroristes, parce qu'une des théories des grands spécialistes et penseurs américains, c'est que c'est la dictature dans les pays arabes a généré ou a créé ce terrorisme-là. Donc, on sait très bien que les grandes multinationales ont ce qu'ils appellent entre parenthèses des actions sociales à l'extérieur de leur activité purement économique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous font penser qu'il y a aussi une intervention de l'État américain, c'est pas seulement de la société civile, qui inclut, disons, les sociétés comme Google ou Twitter?
Alors, j'aimerais juste dire que les États-Unis sont une démocratie chez eux. Ils ne sont pas une démocratie à l'étranger. Ça veut dire que l'histoire des États-Unis nous a montré qu'elle ne fonctionnait qu'avec des dictatures à l'étranger. Donc, on ne peut pas dire que les... Alors, moi, je cite dans le livre un historien américain qui s'appelle William Blum. Il dit « Nous faisons à l'étranger ce qui est interdit de faire chez nous ». Et ça, c'est un historien qui est très très connu, d'ailleurs qui a beaucoup parlé de l'interventionnisme américain dans les pays d'Amérique latine, par exemple. Et ce que font les États-Unis à l'étranger, ça n'a rien à voir avec la démocratie.
Un autre élément, je pense, Amine, mais
juste pour faire le parallèle. Actuellement, comment ça s'est passé, par exemple, après Bouazizi, il y a eu en Égypte, les jeunes sur Facebook, ils ont décidé que le 25, ça allait commencer. En Libye, le 17 février, en Syrie récemment. Est-ce que, par exemple, pour le cas de la Syrie, vraiment, c'est de la manipulation ou c'est comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu
j'ai écrit le livre avant que la Syrie ne commence, mais si je regarde, par exemple, le cas de la Libye et le cas de la Syrie. La Libye, c'est sûr, ça a commencé avec Facebook. Il y a même une page Facebook, je mets dans le livre, il y a même le point Hotport, etc. Mais dans le cas de la Libye, c'est exactement l'exemple qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, comment on peut passer de la théorie de la non-violence de Jane Sharp à la théorie de la violence, c'est-à-dire on passe à une guerre civile. Donc, et les révolutions colorées, leur principe, c'est de ne pas rentrer en conflit avec l'armée ou avec la police. C'est-à-dire tout faire pour ne pas être en conflit, gagner la révolte sans faire de guerre. Et où est-ce qu'on assiste maintenant? On assiste à un bain de sang, que ce soit en Libye ou en Syrie.
Dans le cas de la Libye, est-ce que parce qu'il n'y avait pas de cyberactivistes qui étaient préparés, donc ça a donné ça?
Chaque pays a ses propres particularités. Dans le cas de la Libye, il y a eu des mouvements. Okay. Dans le cas de l'Égypte et de la Tunisie, c'est des cyberactivistes. Dans le cas de la Libye, on sait très bien qu'il y a des groupes armés qui ont été financés par les États-Unis. Le Front National de Libération de la Libye, par exemple, c'est un mouvement qui a été créé par Jafar Nomeiri, qui a été financé par
du
Soudan il y a très longtemps. Il a été financé par Saoudia. Donc c'est pour ça qu'on voit que les pays du Golfe sont contre. Et le dernier congrès qu'ils ont fait, c'est en 2007, ils l'ont fait aux États-Unis. Donc vous avez un groupe armé qui veut en découdre avec Gaddafi, pas dès maintenant, depuis très longtemps. Et autre chose aussi, ce qui est étonnant dans le cas de la Libye et qu'on a vu nulle part ailleurs, c'est que du jour au lendemain, on a vu des nouveaux drapeaux. Quand on fait une révolution colorée, on ne cherche pas à changer le drapeau. C'est-à-dire on garde l'intégrité de notre pays, de nos symboles. Dans le cas de la Libye, du jour au lendemain, il y a eu des millions de drapeaux. D'où sont venus ces drapeaux-là s'il n'y avait pas une préparation?
Je vais prendre un appel. Je pense que c'est Salim. Bonsoir Salim.
Bonsoir Némine,
bonsoir.
S'il vous plaît, deux mots tout simplement, je viens de parler. Regarde, c'est vrai que tous les réseaux sociaux ont leur stratégie. j'aime leur façon de d'induire des révoltes, etc. Actuellement, au moment où on se parle, enfin au moment où on se parle dans ces temps-ci, il y a une chose, il y a un problème dans les pays arabes. C'est certains pays, la plupart, pratiquement de tous les pays arabes, ils veulent, ils acceptent l'ingérence étrangère. Ça c'est le problème qui fait leur division. Parce que moi quand je parle pas des États-Unis seulement, je parle des Occidentaux, divisés pour régner. Parce que j'ai lu quelque part où tout ce qui se passe actuellement dans les pays arabes, c'est au profit d'Israël. Ils sont en train de diviser, faire des révoltes pour affaiblir leur position, leur situation économique, etc. au profit d'Israël.
Bon. Salim.
Oui.
Est-ce que les pouvoirs en place, jusqu'à présent, ils ont libéré un mètre du territoire palestinien ou même des territoires arabes, à part bien sûr Canary?
Non,
je pose la question.
Le problème de la Palestine, regarde, le problème de la Palestine, en un mot, Salim, c'est un problème beaucoup plus concerné par les Palestiniens eux-mêmes. Avant d'aller ailleurs où il faut poser cette question aux pays arabes, c'est un problème entre Palestiniens. Il y a un problème interne. Il faudrait qu'ils apurent leur situation avant d'y aller en quelque sorte négocier la paix, le partage des terres. Ça, c'est clair. C'est un problème palestinien. Il est connu. Et d'ailleurs, avec maintenant la coalition avec, je sais pas, avec Hamas et Fatah, etc., et ça n'arrange pas Israël. C'est ça la question.
Merci beaucoup, Yatek Sahar Salim.
Moi, j'ai remarqué, M. Sadat, dans votre livre, vous parlez un peu du financement des ONG algériennes. Oui. Vous ne parlez pas trop, mais vous en parlez.
Oui. C'est vrai que, comme je vous ai dit, moi, je ne travaille pas avec la CIA, je n'ai pas de connexion avec les hautes sphères de l'État. Je ne fonctionne qu'avec les informations que je peux trouver. Dans le cas de l'Algérie, elle a été financée, certains groupes ont été financés par les États-Unis. Alors je pourrais, en fait ils ont pas reçu beaucoup d'argent comparativement aux autres pays. Ils ont reçu autour de $250,000 en 2009, juste par la NED, ok? Parce que les autres organismes ne publient pas leur argent. Donc les sommes que je donne dans le livre, c'est juste la NED et juste en 2009. Donc on peut voir que pour l'Algérie par exemple, il y a $200,000 pour le centre de l'entreprise privée, $38,000 pour la CFDA, c'est un collectif des familles disparues en Algérie, et $13,000 pour l'Association nationale des familles des disparus. Et comme par hasard, les États-Unis ne s'intéressent qu'aux disparus, qu'aux ONG algériennes qui s'occupent des disparus. On ne voit pas ici, par exemple, la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme a reçu de l'argent en 2002, 2004 et 2005. On peut le retrouver. Ils ont reçu pas mal d'argent. De notre côté, la SNAPAP, qui faisait partie du CNCD, par exemple, a reçu je sais pas si elle a reçu de l'argent, mais parce que j'ai pas les chiffres, mais je sais qu'elle est liée au Solidarity Center, qui est un des 4 satellites de la NED. La NED a 4 satellites, dont IRE, du Parti républicain, de McCain, et de la NDI du Parti démocrate et le Solidarity Center.
Et donc tout ce monde-là, ils ont reçu
soit de l'appui, soit de l'argent. Ok, alors quand il s'agit des financements de la NED, c'est sûr que la Ligue des droits de l'homme de l'Algérie a reçu, pas en 2009, mais avant 2009, elle a reçu de l'argent.
Mais finalement, le risque dans tout ça, c'est que les gens qui font tout ça, ils sont plus indépendants.
C'est exactement ça. Ce que je disais au début de notre débat, c'est que avec Sami Ben Gharbia, qui se pose la question, c'est que quand on reçoit de l'argent de quelqu'un, premièrement, il faut pas être dupe. On parle de politique, on parle de pays, on parle d'histoire, on parle de millions de personnes. Les États-Unis, quand ils s'ingèrent dans un pays, ils ne le font pas parce qu'ils aiment les Arabes ou qu'ils veulent qu'il y ait de la démocratie. Exactement. À moins que je me trompe. Et sincèrement, je le dis à la fin de mon livre, j'aimerais me tromper.
Monsieur Ahmed Ben Saada, donc auteur du livre Arabesque américain, le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe. Il nous reste 4 minutes. On va plus aller dans le côté émotif. Je pense qu'on a fait beaucoup de... on a fait parler beaucoup la raison, les arguments. J'ai eu l'occasion de lire votre livre, mais en supposant que je ne l'ai pas lu. Je suis membre de la communauté arabe, donc de ce peuple arabe qui est ému, qui est fier de ses révolutions. Et si je vous dis que, sans lire votre livre, bien sûr, peut-être sans ces arguments raisonnables, que est-ce que ce livre ne représente pas comme une remise en cause de la valeur des martyrs qui se sont sacrifiés pour ces révolutions? On sait très bien qu'en Tunisie, on parle de centaines de morts, en Égypte aussi, en Syrie et en Libye, on parle de milliers de morts. Est-ce que votre livre ne vient pas peut-être remettre en cause la valeur de la mémoire de ces martyrs?
Alors là, je me mets en faux par rapport à ça, parce que je l'ai dit d'ailleurs dans la première page de mon livre. Le but de ce livre, ce n'est pas de donner de la crédibilité aux autocrates qui nous dirigent, loin de là. Et deuxièmement, ce n'est pas pour minimiser le rôle des jeunes. Les jeunes ont fait leur travail, ils ont chassé des gens du pouvoir. Ils se sont sacrifiés par leur temps, par leur sang et par leur vie. On doit être fier d'eux, c'est loin de là. Mais je ne peux pas nier l'évidence, c'est qu'il y a des gens qui ont été financés. Moi, la seule chose que j'espère, c'est que un gars comme Sami Ben Rabia, qui a mis le doigt sur le bobo, de dire faites attention, les États-Unis peuvent vous aider, ou les Occidentaux en général peuvent vous aider, comme on voit maintenant en Libye, on voit il y a pas juste les États-Unis qui rentrent en jeu. Ils ne le font pas parce qu'ils vous aiment. Faites très attention de ne pas être manipulé. Faites attention à ce que la révolte, votre révolte ce que vous avez réussi à faire dans vos pays ne soit pas confisqué par un pays comme les États-Unis. Au contraire, je leur tire une sonnette d'alarme pour leur dire faites attention. Faites attention. Jouez pas la vie des martyrs. Et ensuite revenir à la case départ.
C'est-à-dire ils vont changer une domination par une autre domination.
Exactement, d'une autre forme, oui.
Bien sûr, le livre va être sûrement suivi par d'autres entrevues donc de radio et aussi une conférence qui sera programmée très très bientôt à Montréal pour permettre en fait d'ouvrir le débat, de vous donner aussi l'occasion de démontrer l'approche scientifique que vous avez utilisée ou en fait de cause à effet que vous avez utilisée. Parce que, comme je dis, je pense que dans le débat, il y a un côté émotif, mais aussi un côté raison.
Exactement, parce que souvent on me dit, j'ai vu une émission au centre culturel algérien où on a posé sciemment cette question-là, puis le monsieur qui répondait aux questions a dit c'est une insulte à la mémoire. Premièrement, j'aimerais qu'il lise le livre d'abord avant de se prononcer, et deuxièmement, quand on parle de problèmes sociaux, on doit laisser l'émotion de côté. C'est-à-dire que quand on parle de la réalité des choses, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous nos émotions. Mais il y a un moment où on pose des émotions, puis il y a un moment où on fait une analyse pragmatique des faits. Ce sont des faits. Il y a au-delà de 260 références dans mon livre que j'ai retenues. Ça veut dire que moi, j'ai lu des milliers d'articles, j'ai visionné des heures et des heures de vidéos pour arriver à ce résultat-là.
Et bien sûr, vous ne dites pas que les personnes qui ont été formées ou qui ont été supportées, c'est des traîtres, c'est qu'ils doivent faire attention de ne pas être manipulés dans le futur.
Exactement. Il n'y a pas de traîtrise là-dedans. Il n'y a pas de traîtrise. Ils ont réussi à faire quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire changer de régime. Mais entre vous et moi, actuellement, je ne vois pas de changement. J'espère que ça va changer, mais je ne vois pas de changement. Il y a des activistes qui ont été emprisonnés aux États-Unis, en Égypte, il n'y a pas longtemps.
Oui. Après le départ de Moubarak,
oui.
Merci beaucoup, donc Monsieur Ahmed Ben Saada, donc auteur de Arabesque américaine, le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe, édition Michel Brûlé, disponible.
Bravo aux activistes qui ont réussi à faire ce que nous et nos parents n'ont pas réussi à faire.
Et on vous donne rendez-vous Taxi Maghreb dans 2 semaines.